radio.
La radio où il fait toujours beau.
Bienvenue sur Fun Radio, la radio où il fait toujours beau. Dans le cadre du projet de zone AEFE, une classe lecture a été organisée en CM2B à l'école franco-sénégalaise de Fan, d'où les élèves ont accueilli Marion Achard, une artiste de cirque et femme de lettres française, en compagnie de Arnaud Mermet, EMFE, notamment formateur en éducation aux médias et à l'information. Allons voir tout de suite ce qui s'est passé.
Et ouais, on peut dire les deux, on peut dire autrice, on peut dire auteur avec un E, on peut dire écrivaine, on peut dire les trois. Quand j'étais petite, quand j'avais 8 ans, je m'ennuyais pas mal à l'école et j'avais beaucoup d'idées dans la tête. Donc je me disais, si au lieu d'être en classe, je pouvais partir faire le tour du monde sur un bateau et puis je serais un mousse clandestin et puis le bateau ferait naufrage et on arriverait sur une île déserte dans une chaloupe et dans cette île, il y aurait un serpent et un singe et ça deviendrait mes amis. Et du coup, j'imaginais ça et comme je pouvais pas partir sur un bateau pour faire le tour du monde, et ben j'ouvrais un cahier, je me mettais à écrire cette histoire. Et après, je me disais, on pourrait vivre avec des copains, on n'aurait pas de parents et on habiterait dans la forêt et on aurait des cabanes dans les arbres. Et entre les cabanes, il y aurait des tyroliennes et des ponts de singes et on passerait d'une cabane à l'autre. Et puis, il y aurait un clan ennemi dans la même forêt, d'autres enfants. Et du coup, il y aurait des histoires entre les deux clans. Et puis, les parents, ils seraient en dehors de la forêt, ils n'auraient pas le droit de pénétrer dans la forêt. Donc, ça, c'était une autre idée. Donc, je prenais un cahier et j'écrivais cette histoire. Et comme ça, dès que j'avais des idées ou dès que j'avais envie de vivre des choses que je ne pouvais pas vivre pour de vrai, et ben, je me mettais à les écrire. Et petit à petit, comme ça, j'ai développé mon imagination et j'ai développé ma capacité à écrire et à inventer des histoires et à écrire une histoire jusqu'au bout. Et c'est comme ça que je suis devenue écrivaine.
Radio.
Est-ce que vous savez ce que c'est qu'un éditeur? Je vais répondre à ta question, mais elle est un peu compliquée, donc je vais revenir au démarrage. Oui, qu'est-ce que c'est?
Il me semble qu'un éditeur, c'est quand tu as fini le livre et qu'il le produit en masse.
Et qu'il le produit en masse? Oui, alors il va faire ça, il va s'occuper de l'imprimer en quelques milliers d'exemplaires, mais il va faire autre chose l'éditeur. Son métier, ça va être quoi? Parce que là, sinon, ce que tu me dis, c'est presque le métier de l'imprimeur. Tu vois? Alors l'éditeur, il va s'occuper d'imprimer avec l'éditeur, mais il va faire d'autres choses cet éditeur. Qu'est-ce que ça va être sa fonction? Vous savez, sur les livres, il y a toujours le nom de la maison d'édition. Là, c'est Actes Sud. Ici, par exemple, c'est Milan. Vous connaissez peut-être l'école des loisirs, Hachette. Tout ça, c'est des noms de maisons d'édition. Dans les maisons d'édition, il y a des éditeurs. Et alors, qu'est-ce qu'ils font ces éditeurs? C'est quoi leur travail, puisque ce n'est pas eux qui écrivent? Oui.
Les éditeurs, ils peuvent aussi faire le commerce.
Oui.
Dans des magasins et des transports.
D'accord. Donc, il va s'occuper effectivement de diffuser, de distribuer les livres, de faire que ce soit dans les librairies. Mais encore avant ça, avant de l'imprimer et avant de le diffuser, il va faire quoi? Oui.
Et si ça lui plaît, ben il va le mettre dans sa maison d'édition pour pouvoir le montrer à tout le monde.
Tout à fait. Donc son premier travail à l'éditeur, c'est de lire le livre. Moi, quand j'écris un livre, je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Ça ressemble à ça. Moi, j'écris l'histoire à l'ordinateur. Quand j'étais petite, j'écrivais à la main. Après, j'écris à la machine à écrire et maintenant, j'écris ça sur l'ordinateur. Et ça, c'est mon travail. Donc j'écris toute l'histoire et je me concentre à faire que toute l'histoire, elle emmène quelque part et elle raconte quelque chose. Et c'est ça que j'envoie à l'éditeur. Et l'éditeur, quand il a ça, bah, il lit et puis il dit, ah non, ce livre-là, il ne m'intéresse pas. Et puis il reçoit plein de livres de plein de gens, puis il dit, non, celui-là, il ne m'intéresse pas. Ah, celui-là, il m'intéresse. Et comme ça, il va choisir parmi les livres, parmi les manuscrits qu'on lui envoie, celui qui va vouloir publier et faire que ça devienne un vrai objet, un vrai livre. Voilà, donc son premier métier, c'est de choisir le livre, de choisir les textes. Je vous montre un petit peu après ce qu'il fait, quand même. Une fois qu'il a choisi, moi, il m'envoie des corrections.
Radio.
Il va me dire, par exemple, là, tu as fait des répétitions, là, tu as mis quelque chose qui est moins intéressant, là, il y a peut-être que ce personnage-là, tu pourrais le développer un petit peu. Voilà. Mon éditeur, il ne fait pas trop de corrections. Il y a des éditeurs qui font des corrections... Qui changent presque tout le livre, qui vont dire à la fin, tu devrais commencer mettre la fin au début, tu devrais, c'est une fille, mais tu devrais faire que ça soit un garçon. Bon, il a 8 ans, mais ça serait mieux s'il avait 12 ans, et puis au lieu d'un chien, ça serait mieux qu'il ait un chat. Il y a des éditeurs qui proposent plein de choses. Moi, mon éditeur, il corrige plutôt des détails. Voilà. Donc, il corrige comme ça. Et une fois qu'il corrige, il y a encore des étapes pour que ça devienne un livre. Ça, c'était ce texte-là. Alors, comment il va faire pour que ça devienne un objet comme ça?
Radio.
Il va demander à un dessinateur de dessiner la couverture.
Tout à fait. Il demande à un dessinateur qu'on peut aussi appeler illustrateur. Voilà, et pour ce livre-là, l'illustrateur, il avait fait passer des dessins comme ça. Ça, c'est ses dessins à la plume. Oui, lui, il travaillait à la plume. Maintenant, il y a quand même beaucoup d'illustrateurs qui font ça directement sur l'ordinateur ou sur une tablette numérique. Et puis celui-là, il avait dessiné comme ça à la plume. Et une fois que l'éditeur, il a tout le texte et les illustrations, il va demander à quelqu'un, à son graphiste, de faire la mise en page. Et comme ça, il fait toutes les pages, comme ça. Tout mon texte, il est là. Et toutes les illustrations, voilà, il met ça ensemble. Et après, il envoie à l'imprimeur. Et l'imprimeur, il photocopie, il imprime, il coupe, il met la couverture et ça fait un livre. Voilà, donc tout ça, c'est l'éditeur qui s'en occupe. Moi, je m'occupe de ça et l'éditeur, il s'occupe de ça. Vous voyez bien hein, la différence de métier. Non, je pense encore à des histoires. J'ai commencé à 8 ans d'écrire j'écrivais des choses comme ça quand j'étais petite. Donc, je prenais un cahier comme ça et puis j'écrivais. Ça, c'est mes cahiers d'enfant. Voilà, j'écrivais des histoires comme ça. Mais ça, c'est des histoires qui ne sont pas devenues des livres. C'est des histoires qui sont restées dans mes cahiers, qui sont des histoires d'enfants. Et quand je suis devenue adulte, j'ai écrit des histoires comme ça. Et encore maintenant, j'écris des histoires comme ça. Je l'envoie à un éditeur qui le publie. Mes cahiers de petites, elles ne sont pas publiées.
Cette année, on vous a offert un cahier d'écrivain pour que justement vous puissiez, comme Marie-Achard,
vous écrire.
Radio.
Je me rends compte qu'il y a des histoires que j'écrivais quand j'étais petite. Par exemple, cette histoire-là, c'est l'histoire. Ça, j'étais en sixième quand je l'ai écrite. Donc, ça s'appelait Sauperieux. Et c'était l'histoire d'une bande de copines qui faisait du cirque à l'école. Et donc, j'ai pas écrit un livre qui a été publié avec des copines qui font du cirque, mais j'écris encore des livres sur le cirque. Donc je pense que les sujets qui m'intéressaient petite, c'est encore des sujets qui m'intéressent maintenant. Et je pense que ce que j'ai écrit enfant, c'est resté dans ma tête et maintenant j'en fais quelque chose adulte. Voilà. Donc c'est pas exactement les mêmes histoires, mais ça parle des mêmes thèmes. Il y avait beaucoup d'histoires sur le cirque, il y avait beaucoup d'histoires avec des conflits avec des parents. Voilà, et c'est encore quelque chose que je fais dans mes livres quand il y a des disputes ou quand il y a des problèmes familiaux. C'est encore quelque chose que je traite dans mes livres aujourd'hui. Voilà, donc ça m'inspire encore.
Radio.
Pourquoi le cirque? Eh bien, parce que je suis passionnée par le cirque depuis que je suis petite. Voilà. Tu l'as entendu, mon histoire de cirque quand j'étais enfant?
Non.
Non, voilà. Vous voulez que je vous raconte une histoire?
Oui.
Alors, je raconte mon histoire, vous posez vos questions après, d'accord?
La radio où il fait toujours beau.
Donc, quand j'étais petite, quand j'avais 4 ans et demi, mon père, il avait acheté en Ardèche. Alors l'Ardèche, c'est un département en France où il y a beaucoup de collines, beaucoup de forêts et pas beaucoup d'habitants. Voilà. Et il avait acheté en Ardèche, en haut d'une petite colline, une maison en ruine, complètement cassée. Et il avait décidé, lui, son rêve de petit garçon, c'était de construire une maison. Donc une fois qu'il est devenu adulte, il a acheté cette maison en ruine et tous les étés, il allait construire cette maison et pierre par pierre, avec son ciment, il mettait son ciment, ses pierres, il mettait son ciment, ses pierres. Et pendant 20 ans, il a construit cette maison. Moi, quand j'allais en Ardèche, je m'ennuyais beaucoup, puisqu'il n'y avait pas d'enfants dans le village et construire une maison, ça ne m'intéressait pas beaucoup. Et du coup, je m'ennuyais et un jour, j'ai regardé à la télévision, on avait une toute petite télévision noir et blanc, un film qui s'appelait Trapèze. Trapèze, c'était une histoire incroyable. Vous voyez ce que c'est les trapèzes dans les cirques?
Oui.
Donc Trapèze, c'était une histoire de deux trapézistes, deux hommes très forts, très beaux, très costauds, qui essayaient de faire un triple saut périlleux au trapèze volant. Donc c'était une figure très dangereuse. Et pendant le film, arrivait une femme très belle, très bonne trapéziste aussi, qui tombait d'abord amoureuse d'un trapéziste, puis amoureuse de l'autre trapéziste. Donc ça faisait des problèmes entre les trapézistes, qui se retrouvaient à prendre des grands risques pour faire leur numéro. Et puis voilà, bon, il y avait toute une histoire comme ça. Je coupe la télé, j'étais fascinée par ce que j'avais vu, et je vais voir mon père et je lui dis, écoute papa, plus tard, je veux devenir trapéziste. Alors lui, il me dit, mais trapéziste, tu peux pas devenir trapéziste, parce que moi, je fais pas de trapèze, ta mère, elle fait pas de trapèze. Et quand j'étais enfant, il n'y avait pas d'école de cirque. Donc le cirque, c'était vraiment une tradition familiale, c'est les parents qui apprenaient à leurs enfants. Donc j'étais un peu déçue, Mais comme j'étais têtue, je me suis dit, c'est pas grave, je vais apprendre à faire du cirque toute seule. Donc j'ai sorti une grande couverture que j'ai mise dans le jardin, devant la maison, et je me suis entraînée à faire la roulade avant. Vous savez tous faire la roulade avant ou pas ?
Oui.
Bien. Quand j'ai réussi à faire ma roulade avant, je suis allée toquer à toutes les portes du village pour aller voir les vieilles dames. Et je leur disais, oui, bonjour madame, à 4h tout à l'heure, là-haut, chez monsieur Achard, je fais un grand spectacle de cirque. Oui, bonjour madame, tout à l'heure, à 4h, là-haut, je fais un grand spectacle de cirque. Et à 4h, qu'est-ce qui s'est passé ? Toutes les vieilles dames sont arrivées avec des paquets de bonbons et des paquets de gâteaux pour venir voir mon grand spectacle de cirque. Donc moi, j'étais vraiment toute, toute petite. Et mon père, il faisait son mur comme ça, et puis il voit toutes les dames arriver, parce que je ne lui avais pas dit que je faisais un spectacle de cirque dans le jardin. Donc il voit les vieilles dames, il va les voir, il dit « qu'est-ce qui se passe ?» Et elles disent « ah ben c'est Marion, elle nous a invitées pour son spectacle. » Alors mon père, il sort des petites chaises, les dames, elles s'installent. Moi, je sors ma couverture, et ce jour-là, j'ai fait 2 numéros. Donc mon premier numéro, c'était ma roulade avant, voilà, que j'ai très très bien réussi. Et mon deuxième numéro, c'était le numéro de la femme ortie. Est-ce que vous voyez ce que c'est que les orties ?
Oui.
Ouais, les orties, c'est dans les fossés, c'est des espèces de plantes vertes qui piquent les doigts quand on les touche. Et il y a les orties vertes et les orties blanches. Et moi, ma cousine m'avait dit que les orties blanches, ça piquait pas. Donc j'étais allée dans les fossés, j'avais ramassé plein plein d'orties. Et quand j'ai fini ma roulade, j'ai mis les orties sur la couverture, je me suis mis en petite culotte et je me suis roulée dans les orties en disant « Je suis la femme ortie, les orties ne me piquent pas, je suis une grande magicienne, les orties ne me piquent pas. » Voilà, donc ça, c'était mes 2 numéros. Et ce jour-là, j'ai appris 2 choses. La première chose, c'est que les orties blanches, ça pique. Le lendemain, j'avais des plaques et des boutons partout et j'osais plus sortir de la maison parce que j'avais très très peur que les vieilles dames, elles découvrent qu'en vrai, j'étais pas une magicienne et que ça me grattait. Et la deuxième chose, c'est que comme elles étaient toutes venues avec des paquets de bonbons et des paquets de gâteaux, j'avais un gros tas comme ça pour tout mon été et je me suis dit, oh, c'est super, le cirque, faut surtout pas que je m'arrête parce que ça rapporte gros. Voilà, et tous les étés, comme ça, j'ai fait un spectacle pour les vieilles dames. Alors, j'ai un peu progressé, quand même. J'ai fait d'autres numéros. Et à 12 ans, quand j'ai eu 12 ans, il y a eu une école de cirque qui a ouvert à côté de chez moi. C'était un peu comme un club de foot ou un club de danse. C'était une école de loisirs. Et j'ai pu m'inscrire à l'école de cirque et apprendre vraiment à faire du cirque. Voilà pourquoi le cirque. À cause d'un film. Mais j'ai fait du cirque, j'ai commencé à faire du cirque de manière professionnelle quand j'avais 20 ans, 22 ans, et j'ai commencé à écrire des livres de manière professionnelle quand j'avais 30 ans. Donc je fais les deux métiers.
Radio !
La première fois que j'ai voulu envoyer mon texte à un éditeur, moi je connaissais pas d'éditeur. J'avais pas d'amis éditeurs, mes parents connaissaient pas d'éditeur, donc j'ai pris ça, je l'ai photocopié en 10 exemplaires, et j'ai envoyé ça à 10 éditeurs. J'ai envoyé à Actes Sud, à l'École des Loisirs, à Milan, enfin voilà, j'ai trouvé des noms d'éditeurs et je leur ai envoyé par courrier. Et c'est Actes Sud qui m'a dit oui. Et maintenant, je ne lui envoie plus par courrier à mon éditeur chez Actes Sud, je lui envoie par mail. Il me connaît, donc c'est plus facile pour moi de communiquer avec lui, ça va plus vite. Donc j'envoie systématiquement à Actes Sud, mais lui, il ne me dit pas toujours oui. Quand j'envoie un texte, des fois il dit oui, et puis des fois ça ne l'intéresse pas, des fois il dit non. Donc si ça ne l'intéresse pas, j'envoie à un autre éditeur. Mais sinon, je reste chez Actes Sud.
Vous habitez dans quel pays ?
En France, dans la Drôme, c'est pas très loin de l'Ardèche. Alors, je fais aussi des livres sur autre chose. Là, la sélection, on l'a faite parce que le projet, c'était aussi autour du thème du cirque. C'était bien de donner un thème. Et j'ai beaucoup de livres sur le cirque. Mais j'ai aussi écrit une histoire sur des Indiens dans la forêt amazonienne. J'ai aussi écrit une histoire sur les enfants soldats. J'ai aussi écrit d'autres livres. Et comme je connais très bien le cirque, je pense que c'est plus facile pour moi d'écrire sur ce sujet. Parce que je suis meilleure, je connais tout. Voilà. J'aurais du mal à écrire sur une autre discipline, sur un autre sport, par exemple.
Est-ce que vous écrivez des BD pour adultes ?
J'écris des BD pour adultes. De quoi ?
C'est quelle BD ?
C'est par exemple une qui s'appelle Tamba l'enfant soldat, qui est plutôt pour des lycéens et des adultes. Oui. Tout à fait. Est-ce que tu te souviens de ce personnage ? Voilà, moi, si j'étais un personnage dans celui-là, je serais celui-là, là.
Voilà.
Mathilde, celle qui s'appelle Mathilde. Si vous lisez la BD, vous verrez le personnage de Mathilde. C'est un personnage qui me ressemble un peu. Oui. Je fais pas de manga. Non, je ne sais pas faire les mangas. D'autres projets en route ? Oui, j'ai un projet de bande dessinée en route et enfin de deux bandes dessinées qui sont en train de se faire et j'écris la quatrième histoire de ce personnage en même temps. Voilà, ça c'est les deux projets qui vont voir le jour cette année. Oui, alors si le sujet m'intéresse, par exemple si tu me dis fais un livre sur le judo c'est pas trop mon truc, je suis pas sûre d'avoir envie de passer beaucoup de temps à écrire un livre sur le judo, peut-être, hein, peut-être je pourrais me passionner, mais si tu me dis, est-ce que tu pourrais faire un livre, je sais pas, sur un orphelinat et sur l'histoire d'un enfant ou quelque chose comme ça, je me dirais, ah oui, là, il y a peut-être quelque chose. Voilà, on a des sensibilités, en fait, tous. On a tous des sensibilités, des choses qui nous intéressent. Et si le sujet nous intéresse, eh ben, on peut écrire à ce moment-là. Mais si le sujet ne t'intéresse pas du tout, tu auras beaucoup de mal à écrire un livre et à passer des heures et des jours et des semaines à écrire sur quelque chose qui ne t'intéresse pas. Après, les idées, il faut les écrire. Et c'est quand on commence à les écrire qu'on se rend compte si les idées sont les bonnes idées et si elles nous emmènent quelque part. Donc c'est super d'avoir des idées dans sa tête, mais c'est encore mieux si dès que tu as une idée dans la tête, tu la mets sur un cahier ou tu la mets sur un papier.
Radio.
Plus tard, j'aimerais devenir écrivaine aussi.
Ok, écrivaine de quoi ?
Sur des romans.
Et tu as déjà des sujets ?
Oui, j'ai téléchargé une application sur mon appareil et j'écris des livres.
D'accord.
J'ai commencé à 4 ans moi aussi.
Et ben voilà. Et sur quel, c'est quoi qui t'intéresse ? C'est des livres pour les enfants ? C'est sur des enfants ? C'est des livres sur des animaux ? C'est des livres sur...
Ça dépend. J'ai plein de différents sujets.
Ok.
Il y en a sur les animaux et il y en a un autre qui parle de la colère.
D'accord.
Parce que j'ai jamais vu la colère.
Alors, il y a le seul secret des écrivains. Mmh. Bon. C'est que si vous voulez publier des livres et si vous voulez devenir auteur, eh ben, il faut écrire. En fait, c'est bien d'avoir des idées et c'est encore mieux de les mettre sur papier. Et c'est en écrivant qu'on finit par devenir écrivain. Donc allez-y, hein. Tout le monde est capable d'écrire. Hein. Il faut un papier, un crayon et un peu d'imagination. Est-ce que je fais des... Des livres qui font peur avec du suspense ou... Eh ben non, je fais pas chair de poule non plus. Moi, les histoires que j'écris, en général, c'est ce qu'on appelle des tranches de vie. C'est-à-dire que j'ai un personnage, il va lui arriver des choses, et à la fin de l'histoire, le personnage va être un peu transformé. Il va avoir grandi, il va avoir appris des choses, il va avoir compris des choses. Et donc, le personnage a une histoire avant. J'écris un petit bout, comme ça, une petite tranche de sa vie, et le personnage, il continue de vivre après. Voilà. Et moi, je parle de ce moment où il a une transformation. Donc, du coup, je ne fais pas trop de choses d'enquête ou de choses comme ça.
La radio où il fait toujours...
Est-ce que vous arrivez à rester concentré encore un petit peu ? Oui. Vous voyez le livre qui s'appelle « Tout seul » par exemple, ça ne parle pas de cirque, c'est l'histoire de deux enfants qui se retrouvent tout seuls. « Le peuple du chemin », c'est l'histoire d'une tribu dans la forêt amazonienne, où il y a en Équateur, dans un pays qui s'appelle l'Équateur. C'est inspiré d'une histoire vraie. « Trop de chefs, pas assez d'indiens », c'est l'histoire d'une petite fille qui est très mauvaise à l'école et qui a des problèmes avec ses parents, donc ça ne parle pas de cirque non plus. Voilà. Mais vous avez une sélection plutôt autour du cirque. La cabane, c'est l'histoire d'une petite fille qui est oubliée à l'école par son père et par sa mère qui sont en train de se séparer. Et du coup, elle est de très mauvaise humeur et elle part s'enfermer dans la cabane au fond du jardin de sa grand-mère et elle décide de ne plus jamais sortir et de créer la petite république des enfants. Voilà. Donc ça, c'est l'histoire de la cabane, ça parle pas de cirque non plus. Voilà, ça c'est l'imprimeur, une petite image quand même pour que vous rendiez compte. L'imprimeur, il est capable d'imprimer 2000 ou 3000 livres dans la même journée, hein, si l'éditeur lui demande. Ce sont des énormes machines. C'est l'éditeur qui choisit l'illustrateur. C'est lui qui va faire en sorte que l'illustrateur fasse la couverture. C'est pas moi qui décide, c'est pas moi qui choisis, mais là quand même l'éditeur m'avait fait des propositions. Donc l'illustrateur lui avait fait 4 propositions. Les illustrateurs travaillent toujours au brouillon parce qu'ils ne vont pas passer des heures, c'est pareil pour la bande dessinée, ils ne vont pas passer des heures à travailler très très bien leur image si après l'éditeur leur dit que ça plaît pas.
La radio où il fait toujours beau.
Alors ça, c'est pour le livre qui s'appelait « Trop de chefs, pas assez d'indiens », qui est donc l'histoire d'une petite fille qui est en CM2 et qui est mauvaise élève. Et ça, c'est le dessin que l'illustrateur avait envoyé. Et l'éditeur me l'envoie et me dit « Qu'est-ce que t'en penses ?» Et je lui dis « Ben, je la trouve un peu petite. J'ai pas l'impression qu'elle est en CM2, j'ai plutôt l'impression qu'elle est en CE1 ou en CP. » Et puis, je trouvais qu'elle avait pas un visage très sympathique. Voilà. Et moi, c'était le personnage de ce livre, je l'aimais particulièrement bien et ça m'embêtait qu'elle ait cette tête comme ça un peu pas sympa. Donc l'éditeur, il en parle à l'illustrateur et l'illustrateur refait un dessin. Voilà, il envoie ça. Et je me dis, ah ben mince, elle est encore plus moche que celle d'avant. En fait, il n'a pas fait de coup. Elle a un visage. Ouais, et puis elle est très grande. Je trouve pas qu'elle a l'air d'être en CM2 non plus. J'ai l'impression qu'elle est en 4e ou en 3e. Du coup, je redis ça encore à l'éditeur. Et là, ça a commencé à devenir un petit peu gênant parce que c'est toujours compliqué quand on demande à quelqu'un de travailler, que cette personne fait un travail et qu'on n'aime pas son travail, c'est toujours difficile de lui dire qu'on n'aime pas son travail. Voilà, donc déjà là, je lui avais dit que j'aimais pas. Ensuite là, je lui ai dit que j'aimais pas. Et vous savez, c'est toujours dur quand on rémunère quelqu'un et que la personne s'est appliquée. Je pense que l'illustrateur, il aimait bien son image et qu'il a passé du temps à la faire. Et lui dire que je l'aimais pas, c'était un petit peu difficile. Mais j'ai quand même demandé de changer. Et du coup, ça a donné ce livre-là. Voilà. Qui me posait la question sur les traductions ? C'est toi qui me posais la question sur les traductions. Donc mon éditeur, quand il a mon livre et qu'il m'a fait un contrat, le livre lui appartient. C'est plus mon livre. Donc si jamais il y a des traductions qui doivent être faites, c'est pas moi qui m'en occupe, c'est l'éditeur qui s'en occupe. Bon, je vais vous proposer l'exercice sur les émotions. Comme ça, vous allez vous mettre un petit peu au travail parce que je sens que ça commence à s'agiter. Et puis je vous montrerai les images après. Ok ? On va faire ça. Vous avez quoi ? Vous avez des feuilles blanches ou des feuilles de brouillon ?
Tout ce que tu
veux. Oh, bah, une feuille blanche, alors peut-être ça sera bien. Du coup, je vous montre ce qu'il faut faire. Et puis après, je vous laisse le réaliser. Donc, si vous avez une feuille blanche, on va la séparer comme ça. Et ici, on va faire des sourcils comme ça. Donc, on va faire des bouches comme ça. Des bouches comme ça. Et des bouches comme ça. Et du coup, dans chaque case, on va compléter le tableau en faisant un visage, en faisant les deux yeux. Donc ça va sur... On fait ça partout. Et à chaque fois, on met, par exemple, pour celui-là, on va mettre ces sourcils-là.
La radio où il fait toujours beau.
Et on fait ça pour les 9 cases. Et après, c'est pas fini. Et après, pour chaque case, on va trouver soit un adjectif, soit une émotion qui correspond au visage. Par exemple, là, vous diriez que le personnage, il est quoi ? Content. Allez, content, ça marche. Heureux, ça marche. Qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre ?
Joyeux,
ok. Voilà, et pour chaque personnage, vous essayez de trouver la caractéristique du visage. On coupe avec un... pas avec un ciseau, hein, avec un... Laisse-la entière ta feuille, la plie pas, ça sera... Ah, c'est pour juste le...
La radio où il fait toujours beau.
Alors l'idée, c'est de montrer comment, sur un travail de bande dessinée, avec juste des sourcils et des bouches différentes, l'émotion du personnage ne sera pas la même et ce qu'il exprime pour le lecteur non plus. Donc si après on rajoute une bulle, par exemple, en disant « qu'est-ce que tu fais là dans la bulle ?» Et bien celui qui sourit aurait une expression comme ça en disant « oh, qu'est-ce que tu fais là ?» Et celui qui fait la tête aura plus « ah, oh, qu'est-ce que tu fais là ?» Voilà, et donc c'est selon selon cette bouche et selon cette expression de sourcil, l'expression du personnage n'est pas la même. T'as fini ? Alors maintenant, il faut que tu mettes les expressions. En face de chaque visage, il faut que tu mettes... un adjectif, faut que tu mettes une caractéristique, tu vois, de ce que tu vois comme expression sur ce personnage. Les enfants, on va s'arrêter là. S'il vous plaît, pour ceux qui n'ont pas fini, comme il y en a qui ont fini depuis un petit moment, on va faire la suite. Ceux qui n'ont pas fini, c'est bien de poursuivre après et éventuellement de remettre au propre. Ok, je voudrais juste que vous me disiez sur deux ou trois, par exemple sur celui-là, qu'est-ce que vous avez trouvé. Donc, si si vous avez, s'il y en a qui ont trouvé le même mot, vous ne le redites pas, mais si vous avez trouvé des mots différents, on dit tous les mots. Oui.
Fâché.
Fâché, ok, il est fâché.
De mauvaise humeur.
De mauvaise humeur. Colère. En colère.
Colérique.
Colérique. Est-ce qu'il y a d'autres mots sur celui-là? Mécontent. Déçu. Moi, je trouve qu'il est plus en colère que juste de la déception. Outré, il y a des différents niveaux hein, dans le vocabulaire que vous avez dit. Entre fâché et colérique, c'est quand même pas la même chose. Quand un personnage est juste fâché, il est mécontent, il est fâché, c'est encore pas trop grave. Quand il est colérique, ça devient un petit peu plus dangereux pour le personnage. Donc, il faut voir ce que vous, ça vous inspire le plus. Et encore plus que colérique, ça pourrait être quoi?
Furieux.
Vous voyez. Entre fâché et furieux, il faut que vous décidiez ce que représente ce personnage. Pour vous, hein. Quand on travaille, vous avez travaillé avec Issa un petit peu sur la BD, c'est ça? Vous allez refaire une séance derrière? Quand on travaille sur un storyboard et qu'on doit dessiner un petit peu le rapidement ce qu'il va y avoir sur les différentes cases pour expliquer l'histoire, comme je vous ai dit, plutôt au brouillon, sans y passer trop de temps pour être sûr que c'est bien, qu'on exprime bien la bonne chose, c'est bien sur les personnages de mettre quand même un minimum d'expression. Donc si vous travaillez sur des petits découpages avec Issa, même si on fait un bonhomme bâton, si vous ajoutez juste les sourcils et la bouche, ça vous permet d'exprimer un panel d'émotions absolument incroyable. Oui.
Tu as déjà fait
une BD sans couleur? Non. Non, je travaille que sur de la bande dessinée couleur. Et quand même, à part les mangas, la plupart des BD c'est en couleur pour les enfants. Après, il y a des BD en noir et blanc, mais c'est plutôt des romans graphiques et c'est plutôt pour les adultes. Alors, en BD, ça rapporte plus d'être illustrateur. Sur la somme qu'on a en BD, l'illustrateur, il va avoir les deux tiers et moi, je vais avoir un tiers à peu près. En roman, comme c'est moi qui fais le plus de travail, c'est moi qui gagne le plus sur les droits d'auteur. Et l'illustrateur, comme il fait que la couverture, il gagne moins que moi. Tu vois, ça va dépendre de la quantité de travail. Voilà. Mais sur le prix d'un livre, il y a de l'argent pour moi, il y a de l'argent pour l'illustrateur, il y a de l'argent pour l'éditeur, il y a de l'argent pour le libraire, il y a de l'argent pour l'imprimeur, il y a de l'argent pour le graphiste, il y a de l'argent pour le diffuseur, il y a de l'argent pour... est-ce que j'ai fait le tour? Pour le correcteur. Et du coup, on a tous un petit peu d'argent. Donc ça fait, il ne reste pas beaucoup. À la fin, le prix du livre, pour moi, il ne reste pas beaucoup. Alors celui qui gagne le plus, c'est d'abord le libraire et ensuite le diffuseur, celui qui va s'occuper de tous ceux qui s'occupent du commerce. Ensuite, ça va être l'éditeur, ensuite ça va être l'imprimeur et tout à la fin, ça va être l'auteur. Et du coup, c'est moi qui imagine et c'est moi qui ai le moins d'argent. Ah oui, c'est injuste. Ouais, merci. Non, c'est pas cool, je suis d'accord. Merci beaucoup.
Faut pas renoncer quand même, hein, les filles.
Non, parce que ça marche, parce que la preuve, j'en vis. Hein. Mais c'est pas... voilà, il faut écrire plusieurs livres, il faut faire son petit chemin. Non, faut pas renoncer. Mais il faut pas le faire pour être riche. Faut le faire pour être parce qu'on est passionné.
Combien de temps pour écrire un livre?
Alors, combien je mets de temps pour écrire un livre? Un livre comme ça, je vais mettre à peu près 3 mois. Et puis un livre comme celui-là, je vais mettre à peu près 8 mois. Mais par exemple, aujourd'hui, je ne vais pas écrire hein, parce que je vous rencontre. Hein, toute cette semaine, je suis à Dakar, je ne vais pas écrire cette semaine. Donc peut-être la semaine prochaine, je vais écrire. Mais dans le temps d'écriture que j'ai, ça me prend quasiment une année pour faire un livre. Oui?
Le livre le plus long que tu as fait, c'est combien de pages?
Eh bien, c'est peut-être celui-là. 113. C'est bien? 120. Voilà, je crois qu'on va s'arrêter là. Merci pour votre attention.
La radio où il fait toujours beau.
On va se calmer.
Eh ben, je suis toujours très contente de partager ma passion déjà et ce métier. Et j'aime bien quand ils se mettent à poser des questions, quand il y a quelque chose de spontané comme ça où on sent qu'ils découvrent un univers et puis il y en a à qui ça donne des idées. Voilà, on a peut-être dans cette classe des petits écrivains en herbe. Enfin, j'ai l'impression, en tout cas.
Tu as retenu sur l'activité hein.
Alors, j'ai retenu que Marion Achard était une écrivaine passionnée par le cirque et qui aimait faire des livres en fonction de ses passions qu'elle avait vécues dans l'enfance. Et elle retient de ses parcours d'enfant, elle les retient pour pouvoir faire des livres. Et je trouve qu'elle est vraiment passionnée Et elle ne fait pas que ça pour l'argent, elle fait aussi ça pour le plaisir d'écrire.
D'accord. Et qu'est-ce que toi, tu as particulièrement aimé par rapport à ce qu'elle a dit?
Le fait que j'ai aimé, c'est qu'elle a commencé très tôt à écrire. C'est-à-dire à partir de 4 ans, elle commençait déjà à se dire « je vais faire du cirque, je vais faire du cirque ». Et j'ai bien aimé le fait qu'elle commence enfant et qu'elle s'évolue pour pouvoir évoluer aujourd'hui, être une écrivaine qui fait de très bons livres.
On revient toujours vers vous. On voit que dans le cadre de l'éducation aux médias et à l'information, beaucoup d'établissements innovent aujourd'hui en créant des web radios, des web TV. Et est-ce que vous pensez que c'est d'actualité dans le cadre de l'AFE d'initier par exemple dans les établissements des petites imprimeries pour pouvoir fabriquer par exemple les journaux dans les écoles, puisque aussi ça rentre dans le cadre de l'information, par la presse écrite notamment, conciliée avec ces activités qui se passent en classe sur la littérature, la production écrite et les livres en un mot?
À vous prêcher un convaincu, hein, puisque j'ai fait une formation avec ma collègue de lettres, formatrice de lettres cette année sur les médias. On recommence l'année prochaine. Je crois que déjà il y a beaucoup de choses à faire autour de la semaine des médias dans les écoles, aussi bien d'ailleurs françaises que sénégalaises. C'est dommage que ça ne soit pas pris en compte. Alors c'est vrai qu'on a beaucoup de choses à faire en primaire par exemple. Donc bon, on ne va pas faire ça toute l'année, mais c'est vrai que produire, alors maintenant de manière numérique, parce que bon, le papier, voilà, mais de manière numérique, des journaux d'école, des journaux de classe, oui bien sûr, et surtout amener à, et ça c'est dans toutes les matières, amener un regard critique de la part des élèves sur les images, ils sont tellement envahis d'images, envahis de choses qu'il faut vraiment qu'ils aient un regard. Un recul par rapport à ça. Et je pense que c'est essentiel que l'éducation aux médias soit développée partout. Il y a encore beaucoup de travail. Merci.
Ben, merci et bonne lecture hein, à tous.
Merci.
Au revoir les enfants. Bonne journée.
La radio où il fait toujours beau.
Merci de pratiquer Fan Radio. C'était un reportage de François Mohamed Duno. À la prochaine.
Bienvenue sur Radio Fan.
Radio.
La radio où il fait toujours beau.